prend un échantillon d'une musique existante et on en fait ce qu'on veut, on se le réapproprie. Après, si quelqu'un estime que sa musique lui appartient et qu'il veut pas qu'on y touche, qu'il s'exprime ainsi, ça ne nous empêchera pas de la piller. Je plaisante, je suis un vandale, c'est pour ça, c'est parce que je vole la musique, moi, j'ai pas de honte à le faire.
Faut-il un copyright sur les cultures ?
Véronique Marty, Laurence Di Félix.
Au mois de juillet de cette année, le metteur en scène québécois Robert Lepage reçoit une lettre. C'est une pétition qui lui reproche de monter un spectacle sur l'histoire du Canada avec une troupe qui ne comporte aucun acteur autochtone. Il est accusé d'appropriation culturelle. Le débat s'enflamme, la polémique enfle, au point qu'il décide de renoncer à son spectacle. Kanata sera finalement joué au mois de décembre prochain à Paris. Appropriation culturelle. Le mot a aussi été utilisé cet été, lorsque Madonna arborait une tenue berbère à la cérémonie des MTV Video Music Awards. Et puis on l'entendait cet hiver, lorsque Kim Kardashian postait une photo d'elle coiffée de tresses africaines. A-t-on le droit de faire ce qu'on veut des cultures, des folklores, des musiques, des autres ? À qui appartiennent les traditions, les vêtements, les coupes de cheveux, les histoires ? Si nous nous approprions la culture de l'autre, en quoi sera-t-il lésé ? Et si nous nous privons de ces emprunts, est-ce que nous ne risquons pas de perdre notre créativité et notre liberté ? Cette semaine dans Vacarme, nous allons nous frotter à des cas concrets d'appropriation culturelle, des situations limites aussi que l'on croise souvent dans notre quotidien. Parce que oui, nous sommes nombreux à aimer danser le tango ou la salsa, à nous être déjà déguisés en indien ou en japonais et à trouver que finalement, ce n'est pas très très grave. On va parler musique aujourd'hui avec deux Neuchâtelois qui s'intéressent de près à la musique kényane et plus précisément au benga. Alan Marzo et Karl Hannebrink ont créé le label FLI avec l'idée de s'emparer des musiques traditionnelles pour en proposer des nouvelles versions remixées par des musiciens occidentaux. À la base de leur démarche, une idée d'ouverture, d'échange, d'hybridation culturelle. Une démarche qui pourrait pourtant se révéler discutable. Voici l'utopie de la world music, un reportage de Jonas Paul, réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Salut,
ça roule.
Ça va ?
Tranquille, super, et toi ? Bien ? Ça magnifique.
Va, ça roule ?
Oui, oui. Bienvenue à 032, les gars. Bon, vous connaissez. La ponctualité, je l'ai appris au Sénégal. Je sais pas si c'est d'appropriation culturelle, ça. Mais bon, voilà. Ok. Ici, là, dans cette première partie du magasin de disques, c'est tout ce qui est black music et musique du monde, si on peut dire ça comme ça.
Vous avez combien de vinyles ici ?
Je sais pas, en 10 et 15 000, je pense, en stock. Eh, bah, magnifique, en plus il y a celui en premier, Gassiri, un artiste congolais qui a été produit par Paco Rabanne Music, tu vois. Est-ce que derrière il y a une projection d'appropriation ou pas ?
Ça, vous, c'est des questions que vous vous posez avant de mettre des disques dans vos bacs, ici au magasin 032 à Neuchâtel, Victor Françoise ?
Non, absolument pas. Alors au niveau du questionnement dans le magasin, on a aucun complexe.
Ne vous inquiétez pas de savoir si les auteurs ont bien reçu des droits d'auteur ou ce genre de choses.
Alors au niveau de ce qui est repressage par exemple, tout ce qui est afro-funk, on entend des fois des histoires de certains labels qui respectent pas forcément les droits ou qui vont juste chercher les bandes et qui reviennent. Et il y a un côté un peu colonialiste là-dedans qu'on essaye de pas supporter. Après, on n'est pas au courant de tout. On cherche pas non plus à trop chercher le scandale dans les choses. En fait, on veut partager de la musique, et si quelqu'un a eu l'énergie à dépenser ou l'argent pour partager une musique, autant en profiter.
Et là, au mur, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 masques africains.
Ça, c'est de la triche, ça. C'est du papier mâché. On les a fabriqués nous-mêmes pour une soirée. C'était qui ? C'était Analog Africa qui mixait.
Qui est aussi un label qui
Analog Africa.
Retrouve des musiques des années 70 d'Afrique. Et...
Absolument, ouais, absolument. C'est exactement ça.
Ça, c'est de l'appropriation culturelle ?
Non, c'est de la décoration, tu aurais dit. C'est joli, non ?
Alan et Karl, on peut profiter d'être ici dans ce magasin de disques où il y a une platine pour écouter votre disque que vous avez édité, ramené du Kenya.
En effet, on est venu remplir les bacs.
On va commencer direct avec le deuxième morceau de la face A, qui est un morceau des CK Jazz Band.
C'est une chanson qui parle de Tom Mboya, qui était un politicien kényan qui a été assassiné. Osepe duto ne gigolo litiginda wakoda bala Jumoko wacho na ero kiola Thimilich nono Thimilich kodwa Thimilich kodwa wacho Ya wakoro kawona kaywa kola manade
Et du coup, Alan Marzo, comment ça s'est passé au Kenya ? Comment vous avez découvert ces morceaux de Benga ?
C'est une soirée qu'on a passée sur les bords du lac Victoria, dans un village qui s'appelle Sori, de pêcheurs, où il y a un club. On a passé quelques soirées dans ce bar, avec les locaux, en ayant nos pantalons dans nos chaussettes pendant toute la soirée jusqu'à 4h du matin.
Pour éviter les moustiques,
c'est ça. Et en écoutant les groupes, c'est vrai qu'on nous a aussi souvent fait la remarque, hein, les Kenyans, ils nous disaient « Mais pourquoi vous vous intéressez à cette musique de vieux et de paysans ?» En disant « Mais c'est pas une musique très raffinée. » Du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle nous, on s'y intéressait, parce que malheureusement, les autorités au Kenya n'ont pas fait assez pour cette musique, selon nous. Et l'élite économique et sociale du pays non plus, quoi.
Vous faites partie d'une certaine tendance. Il y a beaucoup de gens en Europe, en Occident, on va dire, qui vont puiser dans des musiques ailleurs dans le monde, en Afrique notamment, pour rééditer ou revisiter des musiques exotiques. Comment vous expliquez ce mouvement ?
Moi, je trouve qu'en Europe aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment se placer par rapport à cette globalisation, ça fait un petit peu peur. Donc souvent, on commence à aller glorifier le passé. Et puis du coup, et ça je pense que c'est pas toujours très positif, on a l'impression qu'en Afrique, on a encore quelque chose de très authentique, des fois quasi primitif, hein, avec je trouve même une petite vague un peu raciste derrière quelquefois. Et puis du coup, on va chercher des réponses sur nous-mêmes là-bas, quoi. Et c'est pour ça que, bon, nous, on a essayé de créer un produit et un projet qui était assez hybride, en disant, ben non, c'est pas du tout authentique, c'est pas du tout primitif, au contraire, c'est beaucoup plus avant-gardiste que beaucoup de musique du monde entier, et on va pousser encore cette dimension hybride plus loin, quoi, c'est ce qu'on a voulu faire. Maintenant, on va passer à la version revisitée, par un artiste qui nous tenait vraiment à cœur, qui s'appelle Jaakko Eino Kalevi, qui vient de Finlande, donc qui est basé à Helsinki. Donc il s'est réapproprié le morceau, alors que c'est un morceau assez mélancolique, lui on a fait une chanson plutôt dansante et assez heureuse.
C'est sur la face B.
C'est sur la face B, c'est ça. Donc on va passer à la face B.
Vous êtes juste le vendeur de ce magasin de disques, Victor Françoise, ou vous faites aussi de la musique ?
Alors moi personnellement je fais de la musique, okay. Plutôt dans le milieu du hip-hop, du rap.
Sampler, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi ?
Sample, ça vient de sample. Sample, c'est l'échantillon. Donc, on prend un échantillon d'une musique existante et on en fait ce qu'on veut, on se le réapproprie. Je me dis pas, ok, c'est un clavier joué par un Bulgare, alors je dois faire honneur à la musique bulgare dans ce que je fais. Non, je le prends, c'est une mélodie, elle appartient à personne. On la prend, on en fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de propriété dans la musique, c'est un outil la musique. Après, si quelqu'un estime que sa musique lui appartient et qu'il ne veut pas qu'on y touche, qu'il s'exprime ainsi, ça ne nous empêchera pas de la piller. Je plaisante, je suis un vandale, c'est pour ça, c'est parce que je vole la musique, moi, j'ai pas de honte à le faire. Pour moi, on peut se servir, en fait.
Et votre limite éthique dans le fait de pouvoir voler des musiques empruntées, je sais pas quel terme utiliser, elle existe ?
Non, absolument pas. Mes albums sont gratuits, et du coup, j'ai pas d'argent à redistribuer, j'ai rarement dû déclarer des choses. Si j'avais dû les déclarer, je serais endetté jusqu'au cou, je pense. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que comme elle est gratuite, je retrouve partout sur Internet des rappeurs de chambre, c'est-à-dire des mecs qui sont dans leur chambre et qui enregistrent des trucs de rap et qui les postent sur SoundCloud ou sur d'autres plateformes, qui en fait ont repris mes instrumentales et m'ont mis producteur Sauce Jackson. Sauce Jackson, c'est mon nom de scène. Et du coup, je me retrouve en tant que producteur de leurs morceaux. Tant mieux. En fait, je m'en fiche parce que il y a écrit producteur Sauce Jackson. Et si une fois il y a quelqu'un qui oublie, c'est pas dramatique. Je vais pas lui coller un procès ou je vais pas essayer d'aller faire appel à ma protection juridique suisse. Voir un rappeur canadien qui m'aurait pris mon morceau, ça va très bien comme ça.
Et quelle que soit l'origine de la personne à qui on emprunte ou de la personne qui emprunte, c'est égal aussi. Parce que souvent quand on parle d'appropriation culturelle, ça devient problématique quand c'est une personne issue d'une culture dominante, riche, qui va puiser dans un répertoire issu d'une culture qui n'a pas les moyens de se diffuser.
Je pense pas que le mec va se dire « Oh, là-bas, les droits, ils vont pas me les demander, je vais prendre. » Peut-être qu'il y en a qui se sont dit ça. C'est un peu des imbéciles, mais c'est pas grave. Ben en fait, je vais me dire « Eh, mais c'est un son qui est assez cool. » Je vais me dire « Eh, mais en fait, la musique n'est pas l'aise. » Il y a des sons intéressants. Et du coup, je vais acheter un disque de musique népalaise. Et à ce moment-là, est-ce que là, le travail, il n'est pas fait ?
On y va ?
On y va.
Parce que je vous fous dehors, de toute façon. C'est l'heure.
on peut te laisser en genre d'épouvante ? Ouais.
Ah, bien sûr, ouais. Pas de soucis.
Qu'est-ce qu'on fait là? On va où, Alan Marzo et Carla Nebrink?
Alors en fait, on va rencontrer Yann Laville, qui est le conservateur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, pour lui présenter notre projet dédié au Benga, dans un premier temps, et aussi pour lui demander des conseils sur notre objet numéro 2 qui portera sur la tarantella.
Je ne sais pas si vous avez déjà visité notre nouveau musée.
Non.
Pressé sur le deuxième étage.
Oh, quel bonheur. Il existe.
Qu'est-ce qu'on vient de vous donner là?
Le premier numéro de Flea. Oh, édité en vinyle.
On a toujours pensé que l'enveloppe c'était un objet un peu sacré, mais.
Pas chez nous.
Vous avez déchiré le carton.
Et je pense qu'on peut le faire restaurer si besoin.
Et à l'intérieur, vous découvrez un vinyle et un catalogue.
Et un catalogue, exactement.
Et qu'est-ce qu'on voit sur la fourre du vinyle?
Un DJ africain en train de passer un disque.
Donc ici, au musée d'ethnologie de Neuchâtel, on s'est assis autour d'une table. D'un côté, il y a vous. Yann Laville, vous êtes co-directeur du musée d'ethno ici.
C'est cela même.
Et vous?
Alan Marzo, co-fondateur de l'association FLI.
Et vous?
Carla Nebrink, co-fondateur de l'association FLI.
Ben, en tout cas, merci de nous avoir reçus. En fait, on a réédité des morceaux qui ont été enregistrés à la fin des années 60. Ouais. Et après, on a donné ces mêmes morceaux à revisiter à des artistes qu'on a sélectionnés, qui évoluent plutôt dans la musique électronique, parce que pour être très honnête, c'est de là d'où on vient, quoi. On était des amateurs de musique électronique.
Donc là, ben, vous vous intéressez à un genre de musique kenyane peut-être pas assez connu sous nos latitudes. Le fond du problème, il est quand même toujours qu'est-ce que ça apporte aux personnes concernées ou qui sont thématisées par le projet.
À qui profite le crime, entre guillemets? Alors pour ce faire, sur la partie économique, c'était en effet de payer des droits d'auteur, s'assurer qu'ils arrivent aux bonnes personnes. Et puis même là, moi, je ne peux pas vous donner de garantie aujourd'hui, les yeux dans les yeux, en vous disant qu'en effet, la femme de l'artiste mort a perçu toute la somme et que le producteur avec qui on a travaillé et un des fils de l'artiste ont été complètement transparents.
On peut savoir combien ça vous a coûté en droit d'auteur d'utiliser ces trois morceaux de musique kenyane de Benga?
On a payé l'équivalent de 250 francs par chanson, quelque chose comme ça. Ouais.
Vous n'auriez jamais pu vous payer ça dans un pays occidental, des musiques occidentales qui sont mieux protégées et qui coûteraient beaucoup plus cher.
Non, c'est clair.
Mais bon, moi, je me pose une question. Donc là, en fait, vous sortez un numéro. Alors, je n'ai pas lu le texte. Mmh. Donc, il y a trois morceaux originaux, puis trois remixes.
Ouais.
Mais finalement, comment résumer un genre à trois morceaux? Pourquoi finalement ces artistes n'ont pas droit à des disques nominatifs? Pourquoi on ne fait pas comme avec Madonna ou Michael Jackson? Enfin, donc, on produit un album, puis on fait redécouvrir finalement aussi, au-delà du prétexte d'une tradition ou d'un genre, en fait, un auteur. Enfin, on assume qu'il s'agit d'un musicien. Juste, j'ai gratigné un peu, mais que ça éveille la curiosité, c'est déjà pas mal. Et après, bah, y a d'autres sous-effets auxquels on peut penser également.
C'est aussi lié à l'approche qu'on a définie pour Flea, qui est de dire, eh ben, on va faire un travail sur un genre avant de passer à un autre genre musical, et on espère qu'on peut redonner de la visibilité à ça et que les autres suivront, quoi, simplement.
Mais en fait, à faire la girouette, Il n'y a pas aussi une dimension un peu d'instrumentalisation. Donc en fait, vous arrivez au milieu de gens, vous rééditez des disques, vous créez en fait un début d'émulation, puis après vous les lâchez comme des vieilles chaussettes, puis vous allez en Italie, puis après vous irez en Suède ou je ne sais pas où, en Amérique du Sud. C'est peut-être ce qui est dommage aussi, hein. C'est effectivement de lancer des trucs, hein. Je ne sais pas, on commence à trouver un public, on éduque un peu les gens, en Europe, il y a des gens qui se remettent à faire de la musique, il y a des réseaux qui se créent entre des producteurs, des remixeurs, des musiciens, puis tout d'un coup, pout, ça retombe comme un soufflet. Je ne sais pas si vous vous posez ces questions, mais comment vous y répondez?
Non, mais c'est terrible, on fait partie de la génération Spotify, donc on passe constamment d'une chose à l'autre. Au final, c'est peut-être un peu lâche aussi, parce qu'en effet, on va passer à autre chose, mais j'imagine que c'est les limites de l'approche qu'on a définie, quoi. Et...
Pourquoi vous n'avez pas demandé à des graphistes kenyans de faire la pochette du vinyle?
Parce que on voulait aussi avoir une composante neuchâteloise, parce qu'on est, on est neuchâtelois. C'est vrai que les Kenyans avec qui on a travaillé, ben, c'était des journalistes. Une musicienne à qui on a demandé d'écrire un article. On veut pas se cacher derrière des épouvantails kenyans. Au final, on veut aussi faire un projet dans un sens artistique qui nous intéressait à nous, quoi. On avait surtout très peur aussi de se dire, bon, puisqu'on veut travailler avec des Kenyans, peut-être qu'on va pas forcément trouver de l'esthétique qu'on recherche ou qu'on sera pas forcément d'accord avec la ligne artistique. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait de la sorte.
Du coup, est-ce que des Kenyans peuvent acheter ce disque ou le trouver dans des magasins?
Ouais. Alors, il y a deux magasins qui le vendent à Nairobi. Après, on a aussi décidé de le digitaliser.
Mais donc, mis à part qu'il est en vente, donc vous avez vendu combien d'exemplaires au Kenya?
Peut-être une 10, 15, à tout casser, quoi.
Vous me disiez que vous aviez dû réécrire certaines parties des textes que vous aviez confiés à des journalistes locaux, mm-hmm. parce que leur façon d'écrire ne vous convenait pas.
Il faut admettre qu'on a fait ce choix-là pour standardiser un peu l'écriture. Mais on l'a fait avec, bien entendu, l'accord des journalistes, de manière complètement négociée. On n'avait pas vraiment d'autre alternative. si on voulait rendre ça accessible à un grand nombre de personnes.
Et dans votre pratique d'ethnologue, d'ethnomusicologue en particulier, Yann Laville, à quel enjeu d'appropriation culturelle vous êtes confronté au quotidien, dans la gestion d'un musée comme ici au Maine, à Neuchâtel ?
C'est des questions permanentes avec des communautés qui ne veulent pas qu'on fasse des expositions à leur sujet, qu'on édite des disques de leur musique ou qu'on fasse des films sur leur tradition. Parce qu'en fait, ils veulent être consultés, ils pensent que ça leur appartient et que ce n'est pas à des Occidentaux de gérer l'accès à ces données. Il y a quelques cas où effectivement des politiques de retour ont abouti à des résultats. Donc, il y a un résultat très tangible autour de la musique en Australie. Donc au sud de l'Australie, dans le détroit de Torres, où en fait la rapatriation d'archives, qui avait été faite, je ne sais plus, 50 ans ou 100 ans au préalable, avait permis de dire que contrairement à ce qu'affirmait l'État australien, les chansons évoquaient des lieux précis qui montraient que ces populations habitaient cette région depuis 100 ans. Et que, contrairement à ce que pensait le droit, en fait, ils avaient une sorte de droit à occuper ce territoire, et qu'en fait, on ne pouvait pas les exproprier, et qu'on ne pouvait pas le céder à des compagnies minières ou à des gens qui veulent développer des lotissements pour Australiens blancs de culture occidentale. Donc, en fait, là, ça avait permis de soutenir une logique d'affirmation et de revendication territoriale. Ça, c'est un cas idéal de ce à quoi peut servir l'ethnomusicologie dans ce type de rapport.
World music, pour vous, c'est un terme qui pose problème éthiquement ?
En fait, on parle de world music depuis les années 80, qui est en fait avant tout un choix marketing stratégique, donc en fait qui répondait à un ras-le-bol d'une certaine frange du public par rapport à ce qu'était devenu l'industrie de la musique. Donc ça participe de ce mouvement de musique dite alternative des années 80, dont vont émerger le rap, la techno et le post-punk. Après, effectivement, la question de l'appropriation a été soulevée très tôt par les ethnomusicologues en disant, on a affaire à une forme de colonialisme ultime, après être allé piller les ressources, maintenant on pille les cultures, dans une logique qui est purement marchande. On leur a un peu rabattu leur caquet. Donc, premièrement, leurs critiques n'ont pas empêché la world music d'exploser avec des festivals, y compris de gros festivals pop-rock, comme Paléo, qui ont des scènes dédiées. Alors qu'il n'y a pas de rapport, je répète, entre le yodel et la musique de balafon, ni la salsa. Et puis, qui s'accompagne d'une utopie. Donc, c'est quand même une utopie de la globalisation positive, donc une globalisation qui ne se limite pas à des questions économiques, de multinationales, de spoliation. Une globalisation faite d'entente entre les peuples, d'échanges, de respect mutuel. Alors, comme toutes les utopies, elle est très belle. Dans les faits, elle est un peu plus problématique. Dans les recherches que j'ai menées sur les festivals de musique du monde en Suisse, une sorte de paradoxe, c'est qu'en fait, la world music n'intéresse pas les communautés étrangères établies en Suisse. Donc si vous allez voir un concert qui est estampillé world music, quand bien même il s'agit d'un musicien africain réputé dans son pays, vous allez voir que des blancs, parce que... Dans ce contexte-là, la communauté ne se reconnaît pas, elle n'a pas l'impression d'avoir son mot à dire. Et donc vous avez affaire à une sorte d'éloge du dialogue où il n'y a pas d'interlocuteur. Donc finalement, c'est une sorte de solipsisme. On parle tout seul d'une rencontre qui est constamment différée et en fait dans laquelle souvent on prête à l'autre des qualités qui sont fantasmatiques. Donc finalement, on ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'il a à dire de lui, on cherche surtout à lui faire incarner des valeurs qu'on croit avoir perdues sous nos latitudes. Donc plus spirituel, plus authentique, plus traditionnel, non corrompu par la modernité, par le mercantilisme, par la technologie. Et donc, quelque part, on fait de l'autre un miroir inversé de notre société. Et moi, ce qui me paraît... capital dans le débat autour de la world music et de l'appropriation culturelle, c'est finalement la part d'autodétermination que ces musiques, que les marchés qui vont avec ces musiques donnent aux populations qui sont concernées. Donc, tant qu'en fait elles permettent un dialogue et de participer à l'élaboration de sa propre image sociale, donc dire qui je suis en tant qu'Africain en Suisse aujourd'hui, la mission est plus ou moins remplie. À partir du moment où vous êtes invité seulement pour tenir un stand de friture africaine ou jouer sur scène, et puis qu'effectivement votre avis n'est pas vraiment en ligne de compte sur la tenue de l'événement, son discours, les lignes de programmation, là on a quand même affaire à une sorte d'instrumentalisation assez regrettable au bout du compte.
058 236 236 0. Pensez-vous, comme Yann Laville, que la globalisation positive est une utopie? La world music est-elle une forme de colonialisme? 058 236 236 0.
Vacarme, Laurence Di Félix, Véronique Marty, Jonas Paul, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Demain, c'est dans l'univers de la mode que nous suivrons un cas parmi d'autres d'appropriation culturelle.
Pour sécurité, je commence à mettre de la japonaise. Comment vous essayez?
Pour sûr, notre gilet ne vient pas des Japonais, comme ils l'ont dit. Dans la description de chez Dior, on décrivait ça comme un gilet d'inspiration hippie avec des motifs japonais. Donc c'est pour ça que la jeune fille a retenu l'histoire avec le Japon.
Voyage en Roumanie, sur les traces d'un gilet traditionnel qui s'est retrouvé sur les podiums des défilés de haute couture. Bior contre Dior, ce sera le titre de notre reportage de demain.